Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. On s'intéresse ce soir dans Décryptage au Irak en Algérie. Le Irak, ce mouvement de contestation populaire né en 2019 et qui a provoqué la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Le Irak qui, 2 ans plus tard, est toujours là, car les revendications profondes n'ont pas changé, à savoir en finir avec l'ancien régime qui est aujourd'hui incarné par l'actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le Irak n'a pas changé, mais les autorités semblent avoir durci le ton vis-à-vis du Irak, avec ces dernières semaines de nombreuses arrestations recensées. Et alors que se profile dans moins d'un mois, les élections législatives algériennes, ce sera le 12 juin. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce scrutin? Quel avenir pour le Irak? Quelle évolution dans son rapport aux autorités? Voilà nos questions ce soir. Bienvenue. Et pour y répondre, notre invité masqué, mais en studio désormais. Oui, la situation sanitaire le permet à nouveau. Laetitia Bukai. Bonsoir, Laetitia Bukai.
Et elle doit continuer son...
Alors voilà, un petit problème technique. Professeur de sociologie politique à l'INALCO et chercheur au CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Alors pour débuter cette émission, Laetitia Bukai, est-ce qu'on peut faire un bref rappel de ce qu'est le Irak, donc né en février 2019, c'est bien ça, à l'époque c'était pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat.
Tout à fait. Alors c'était une surprise puisque l'Algérie était restée à l'écart des printemps arabes. Il y avait bien eu quelques tentatives de mobilisation mais qui n'avaient pas abouti à un véritable mouvement. Et alors qu'on avait donc presque la certitude que l'Algérie resterait à l'écart de ces mobilisations démocratiques, la perspective du cinquième mandat de Bouteflika a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est-à-dire que, alors qu'on pensait que les Algériens étaient dépolitisés, ou en tout cas plus exactement dégoûtés de la politique, et qu'ils avaient renoncé à protester, parce qu'on sait aussi que, bien sûr, il y a eu une expérience démocratique déjà en Algérie au début des années 1990, qui s'est vite refermée et puis qui a débouché sur une guerre civile, alors qu'on pensait que les Algériens renonçaient à faire entendre leur voix. La perspective d'un cinquième mandat d'un président totalement incapable de parler, de se mouvoir, etc., était perçue comme une humiliation pour les Algériens. Quand même un paradoxe qu'une population si jeune soit représentée par un vieillard. Et il y a eu vraiment un mouvement qui a demandé le retrait de cette candidature et puis qui s'est prolongé avec des demandes démocratiques pour changer de système, pour changer de système politique.
Et mouvement qui a abouti, parce que cette candidature justement a été retirée, alors aussi avec évidemment l'appui de l'armée qui s'est prononcée en soutien du Irak. 2 ans plus tard, à quoi ressemble le Irak aujourd'hui? Est-ce que c'est le même?
Alors, pas tout à fait. C'est vrai que ce Irak a suscité beaucoup d'espoir pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un mouvement totalement pacifique.
Il y a eu... Et il est toujours aujourd'hui.
Il est toujours pacifique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que la répression est présente.
On va en parler.
Donc, un mouvement pacifique avec une capacité aussi des Algériens de toutes conditions sociales, des hommes, des femmes, d'opinions politiques très diverses, ayant des projets pour l'Algérie très divers, capables quand même de se rassembler, de marcher ensemble dans une relative concorde, dans une relative harmonie. On a parlé de révolution, du sourire, etc. Les Algériens, ça se passait au même moment que les Gilets jaunes en France. Les Algériens n'étaient pas peu fiers, finalement, que ça se passe mieux à Alger Centre que sur la place de la Concorde, par exemple. Alors, le mouvement s'est affaibli. Alors, d'abord, le fait que la première revendication soit satisfaite, c'est-à-dire que Bouteflika ne présente pas une cinquième candidature, a fait que certaines personnes se sont dit, bon ben voilà, on a atteint un objectif. Après, se posait la question de qu'est-ce qu'on doit obtenir. Parce qu'un des slogans du Irak, c'était qu'ils s'en aillent tous. Et c'était pas centré sur une personne, c'était il faut que le système dégage. Dégage.
Aujourd'hui, et c'est la preuve que l'Irak est bien vivant, le président Abdelmadjid Tebboune est un ancien de la garde rapprochée d'Abdelaziz Bouteflika, il faut le dire.
Oui, choisi par l'ancien chef d'état-major. Donc, il y a eu voilà, le clan de Bouteflika a dû céder parce qu'en fait, l'armée algérienne a surfé sur le Hirak et s'est dit, bah, ok, laissons-le fleurir, acceptons ses revendications. Et puis avec beaucoup de démagogie, on dit, mais oui, c'est vrai, etc. Et donc, ils ont imposé à Bouteflika, à son clan, de partir. Ils ont profité aussi de ce mouvement démocratique pour arrêter tout un tas de gens pour corruption et pour remplacer et avoir un nouveau personnel politique et se servir de faire du Hirak comme un mouvement originel, pur, sur lequel on pourrait s'appuyer, hein, puisque Abdelmajid Tebboune parle de Hirak béni, hein, de Hirak Moubarak, pour dire que ensuite, maintenant, il faut pas dévoyer le mouvement et aller trop loin. Hein. Donc, il y a une tentative de récupération de la part du pouvoir algérien qui a pu aussi s'appuyer, alors là c'était magique pour le pouvoir algérien, sur la crise sanitaire du Covid, bien sûr, hein,
puisque la crise a obligé le Hirak à faire une suspension de quasiment un an. Voilà. Le Hirak a repris en au mois de février. On va s'arrêter brièvement sur les revendications précises du Hirak qui continuent évidemment. C'était vendredi dernier la 117e manifestation hebdomadaire du Hirak. On va écouter, concernant justement les revendications, l'un des manifestants, Jalal Mokrani, qui s'exprimait lors de la reprise du Hirak, justement, au mois de février.
C'est une confirmation pour nous que le Hirak, elle est revenue, elle est là, et elle doit continuer son chemin, toujours avec son caractère pacifique et unitaire, jusqu'à l'aboutissement de ces revendications qu'il a tracées depuis le 22 février 2019. Donc on entend les slogans habituels du Hirak, que ce soit « Tebboune est président illégitime », « On veut une période de transition »,« Algérie libre et démocratique », donc ce sont des slogans qui sont répétés par les manifestants, et aussi la revendication d'actualité, qui est la revendication d'un état civil contre un état militaire. Donc c'est à ce pouvoir d'écouter la rue et de répondre aux revendications du peuple algérien.
Alors Laetitia Bucaï, les revendications du Hirak, donc on les a entendues, une période de transition notamment, disait Jalal Mokrani. Est-ce que ces revendications sont structurées? Parce qu'il y a plusieurs reproches qui ont été faits à ce mouvement, notamment le fait qu'il n'y ait pas de leader, par exemple. Est-ce qu'il y a une vraie alternative proposée face au régime?
Ben, c'est sûr que c'est la difficulté, hein, parce que le Hirak, c'est pas un mouvement structuré, bien entendu, c'est un mouvement populaire, spontané, dont ont pu émerger certaines figures, mais c'est aussi un problème parce que parmi les manifestants les plus exigeants, les plus radicaux, justement, cette question du leadership pose problème. Il y a une véritable méfiance par le système de cooptation, de récupération que manie très bien le pouvoir algérien. Donc c'est vrai que c'est une des faiblesses, hein, du Hirak algérien.
Il y a pas de programme, c'est ça que je veux dire.
Bah, c'est-à-dire il y a plusieurs groupes à l'intérieur du Hirak. Donc il y a ce que nous on appellerait les démocrates, hein, qui sont pour un système politique libéral. Il y a d'autres qui sont plutôt proches de la mouvance islamiste, hein. Et puis d'ailleurs le pouvoir, bien sûr, se sert, hein, aussi de ce qu'il considère, de ce qu'il désigne comme une menace pour un retour de la menace islamiste en Algérie. Donc, on voit, hein, certains, il y a très clairement, il y a des gens capables, hein, dans le Hirak, il y a des gens qui sont capables d'assumer des fonctions politiques, mais enfin, on le sait bien, hein, c'est quand même très difficile du jour au lendemain, surtout dans un paysage politique aussi cadenassé que la scène algérienne, de monter un mouvement politique et de faire émerger des leaders.
Mais le fait qu'il n'y ait pas d'homogénéité aujourd'hui, comme vous dites, il y a plusieurs groupes, il y a des risques de dérive islamiste dont se servent les autorités, vous l'avez dit. Il y a la crainte d'une récupération politique, vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'il n'y a pas justement un leader qui émerge. Mais est-ce que là aussi, ce ne sont pas finalement les limites du Hirak qui souhaite justement en finir avec l'ancien régime et voir une nouvelle figure émerger? S'il n'en propose pas une, comment on peut en voir une émerger justement?
C'est-à-dire que le problème, hein, une des contradictions même en fait du slogan très populaire du Hirak qui consistait à dire qu'ils s'en aillent tous, c'est pas si simple que ça. Le système, quand les Algériens aiment bien parler du système, du fait qu'il faudrait se séparer de ce système, le mettre à bas. Mais en fait, le système, c'est pas un système qui est suspendu comme ça au-dessus de la tête des Algériens. Les Algériens y participent eux-mêmes. Donc, démanteler le système, c'est-à-dire que tout le monde doit changer. Et le problème, c'est aussi de se faire confiance pour avancer. Et pour le moment, d'une certaine façon, si un leader devait émerger du Hirak, il est obligé de fonctionner avec le système. Donc, c'est tout ce passage aussi qui est très délicat. Comment à la fois défaire le système, mais avancer. Ça, c'est une grande, c'est un challenge énorme, effectivement, pour les opposants algériens.
Des passages, comme vous le dites, Laetitia Buka, qui pour le moment est verrouillé par les autorités. Ça va nous emmener à évoquer la question de la répression. Il y a eu de nombreux cas de répression qui ont été signalés ces dernières semaines avec la reprise du Irak au mois de février. Et une annonce qui a provoqué l'indignation, il y a 8 jours, celle du ministère de l'Intérieur, les marches du Irak doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Voilà ce qu'on pouvait lire donc il y a 8 jours dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. C'est une annonce qui est intervenue après un changement de parcours lors d'une manifestation 2 jours plus tôt, ça n'avait pas du tout plu aux autorités. En tout cas, c'est une décision qui a vivement fait réagir la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, donc le fait que désormais il faille que les marches du Irak soient autorisées. On va écouter le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali.
Cette déclaration cache mal la volonté réelle du pouvoir d'en finir avec le Hirak. Il s'inscrit de manière très nette dans la logique, justement, de la répression qui a été installée, ça fait maintenant près d'un mois, à l'approche de chaque rendez-vous électoral, notamment les élections législatives prévues pour le 12 juin. Il faut rappeler qu'à chaque vendredi, les services de sécurité à Alger, dans plusieurs wilayas, notamment à l'ouest, à Oran, ont tenté d'empêcher, d'interdire les marches. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir veut se donner une couverture légale pour la répression.
Alors, la répression, justement, Laetitia Buka, est-ce qu'il y a eu un changement de ton évident du régime vis-à-vis du Irak depuis donc la reprise du mouvement après la crise sanitaire, c'est-à-dire à la fin du mois de février?
Oui, enfin, on sentait déjà, même avant la crise du Covid, un certain durcissement. Et là, non seulement les marches doivent faire l'objet d'une déclaration, mais même le ministère de l'Intérieur a même indiqué qu'il fallait que les slogans aussi soient déclarés, les slogans de la manifestation.
C'est une manière de plus en plus d'encadrer ce Irak qu'on laissait finalement fleurir au début, et puis maintenant on tente de l'encadrer pour mieux l'éteindre.
Oui, c'est la manière de dire que maintenant la répression est possible, hein, puisque ces marches, si elles ne sont pas déclarées, seront considérées comme illégales, et que, donc, si elles sont illégales, la répression peut paraître légitime. Hein. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés en couvrant ces manifestations, des avocats, enfin bon, des meneurs du Hirak. Il y a eu aussi un jeune étudiant qui participait à une marche, hein, qui s'appelle qui s'appelle Walid Nekish, pardon, qui a déclaré, hein, alors qui est un étudiant qui n'a pas du tout une position particulièrement de leader, qui vient d'un petit village kabyle et qui a été arrêté, qui a disparu pendant quelque temps et qui a été torturé. Et il a déclaré, hein, publiquement qu'il avait été torturé et agressé sexuellement. Donc ça, c'est une affaire qui a beaucoup choqué l'Algérie, puis qui résonne avec une pratique qui est assez ancienne, hein. C'est-à-dire qu'on voit que là, les forces de l'ordre changent de registre et reviennent à des méthodes qu'elles ont pratiquées, évidemment, auparavant.
Et il n'y a pas le risque que ça se retourne justement contre les autorités, ce changement de ton? Est-ce
si,
que
bien
peut-être
sûr,
l'étranger que... peut agir, peut réagir déjà?
Alors l'étranger, je ne sais pas, parce que l'Algérie et les Algériens sont toujours quand même très très jaloux de leur souveraineté, donc les interventions extérieures, je n'aiderai pas forcément, mais ce qui aussi est très difficile, sera très difficile à gérer pour le régime algérien, c'est que là, le prix du baril du pétrole a beaucoup baissé. Hein, depuis 2014, on n'est pas dans la même situation que sous les 3-4 premiers, surtout les 3 premiers mandats de Bouteflika. Donc il n'y a pas les mêmes ressources pour éteindre le mouvement. D'ailleurs, ça avait été une des ressources, hein, du pouvoir pour éteindre le printemps algérien en 2011. Ça avait été de balancer beaucoup d'argent, notamment aux jeunes. Bon, ben là, il n'y a plus les ressources et la colère sociale est là. Hein, il y a une vraie crise sociale aggravée par le Covid.
Donc, il y a un vrai risque de confrontation, selon vous? Même si l'Irak, à ce stade, lui, est pacifique, les autorités durcissent le ton, est-ce que, justement, ça peut créer Une étincelle, est-ce que
il,
ça
il peut y avoir des explosions, il peut y avoir des explosions de colère, oui.
Surtout à l'approche des législatives, on en parle. Ce sera le 12 juin prochain, la campagne débute ce jeudi. Elle risque d'être explosive, elle risque d'être tendue en tout cas.
Alors la campagne elle-même, je ne sais pas, parce que ce qui pend aussi au nez du régime, c'est d'avoir un taux de participation extrêmement bas, ce qui a déjà été le cas lorsque le régime a fait voter les amendements à la Constitution à l'automne dernier.
Oui, là, il y avait 23%. Moins de 25% de participation, qui était d'ailleurs une victoire du Irak,
ce qui
s'est montré que justement personne n'a voulu, ou en tout cas seulement un électeur sur quatre qui s'est déplacé pour cette révision de la Constitution.
Donc là, l'enjeu, étant donné que plusieurs partis politiques importants ont appelé au boycott, le Hirak, bien sûr, appelé au boycott. Les grands partis aussi, enfin, comme le Front des Forces Socialistes, appelé au boycott. L'enjeu, c'est la participation, le taux de participation. Parce que, bon, pour la révision d'une constitution, c'est embêtant. Pour l'élection d'un président de la République, c'est embêtant aussi, l'abstention. Mais pour des élections législatives, où on est censé élire des députés qui représentent circonscription par circonscription, les Algériens, s'il y a des régions, notamment, l'un des risques, c'est en Kabylie, hein, où on peut imaginer qu'en Kabylie, le taux d'abstention sera très, très, très haut.
Mais parce que, de toute façon, c'est un coup pour rien, finalement, ces élections qui sont prévues?
Bah, c'est-à-dire que ça a été une décision unilatérale du régime.
Oui, parce que ce sont des élections anticipées, il faut le préciser.
Tout à fait, elles étaient prévues initialement pour 2022. Donc il s'agit en fait de couper l'herbe sous les pieds et d'en finir avec le Hirak, avec un processus politique qui permette de donner une apparence de légitimité à ce régime politique algérien qui est censé apparaître comme renouvelé. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui est renouvelé, hein, si ce n'est qu'on a changé un certain nombre de personnels politiques. Mais donc l'objectif, c'est d'avoir un processus politique qui donne l'idée à l'international notamment, mais aussi au national, le fait que le régime a changé.
Le régime a changé, mais le régime doit changer, plutôt, vous voulez nous dire, parce que le régime, dans les faits, n'a pas changé. Non. Comment peut-il changer, justement?
Eh bien, bon, il est extrêmement solide, hein. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même la grande résilience du régime politique algérien qu'on a cru à plusieurs reprises, on a cru qu'il pouvait être en train de vaciller, mais y compris, hein, je veux dire, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, hein, avec ce Hirak qui se passait de manière pacifique et puis le pouvoir qui semblait quand même laisser la place à ses manifestants. Mais en fait, l'armée, les militaires algériens, le pouvoir algérien ont réussi à tirer parti de ce mouvement pour en récupérer une partie de la légitimité et pour aujourd'hui l'éteindre entre eux, en maniant à la fois la répression et une pseudo-réforme politique.
Donc encore une fois, et comme souvent, c'est l'armée finalement qui a les cartes en main. Elle a poussé finalement, en rejoignant le Irak, Abdelaziz Bouteflika à ne pas se présenter à un cinquième mandat. Et là, le fait finalement qu'elle ne soutienne... En soutenant le Irak, elle pourrait justement précipiter un changement de régime. Elle a décidé de faire autrement.
Ben, ça a été une sorte de ruse, hein, parce qu'elle a appuyé ce mouvement. C'est-à-dire que c'est aussi le fait de dénoncer le système en Algérie. C'est quand même assez ancien. Et tout le monde pouvait dénoncer le système. C'est-à-dire que Bouteflika lui-même, s'il avait pu parler à cette époque-là, il aurait pu dénoncer le système. C'est quelque chose d'assez... c'est un lieu commun, hein, de dire que le système est pourri, qu'il y a des usurpateurs, que la révolution a été trahie, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très partagé en Algérie, que tout le monde peut dire en pensant pas évidemment à la même chose.
Eh bien, merci Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'INALCO et chercheure au CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Ce décryptage est terminé, consacré à l'Algérie. Merci à Eleonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter cette émission, la podcaster. Restez à l'écoute. Guillaume Nodin dans un instant, le débat du jour. Guillaume qui s'interroge ce soir. L'opposition politique peut-elle exister en Russie? Restez à l'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à